Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Merci à ceux qui sont restés, qui étaient déjà là ce matin, et la bienvenue à ceux qui n'auraient pas pu assister à la séance de ce matin. J'ai la rude mission de poursuivre le travail de M. François Dubasque, c'est-à-dire donc de présenter les intervenants et surtout de les limiter en temps. Je devrais être beaucoup plus strict que ce matin parce que les quatre intervenants nous font la joie d'être présents. Une petite communication. Nous sommes donc aujourd'hui en train de parler d'André Léo et de diffuser ses idées. Mais il y a une exposition très intéressante qui est présentée à la bibliothèque universitaire. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est là jusqu'au 4 novembre. Voilà. Donc, ce matin, nous avons eu à connaître des influences et des combats d'André Léo. Cet après-midi, nous avons à traiter de ses engagements et de ses œuvres. Je voudrais aussi, avant de commencer, associer la mémoire de M. Roger Picard, qui malheureusement nous a quittés et qui a été aussi un des pionniers avec son histoire des femmes célèbres dans le Poitou. Il avait contribué à faire connaître André Léo. Alors ce matin, les quatre intervenants ont bien montré qu'André Léo a pris le train des combats féministes, égalitaires et libertaires pour y imprimer sa marque et en prenant des risques, en étudiant l'action de la Ligue en faveur des droits des femmes qu'André Léo a créée et animée. Alice Primi fait une sorte de synthèse, je crois, elle va nous le dire, de toutes ses idées progressistes. Alice Primi est docteur en histoire. Voilà. Et elle fait partie des trois préfacières de ce livre qui est en souscription, le livre d'André Léo, Alinali. Je lui passe volontiers la parole.
Merci. Donc, mon intervention concernera cette Ligue en faveur des droits des femmes, qui a existé de 1868 à 1870. Ce n'est une révélation pour personne ici. Les précédents, tous ceux qui ont travaillé sur André Léo ont bien sûr parlé de cette Ligue. Et ceux qui sont intéressés aussi aux femmes dans la commune, je pense à Dalhotel, je pense à Alain Dalhotel, à Jacques Rougerie, en ont parlé aussi, de même que Florence Rochefort ou Laurence Kleijman dans leur travail sur l'émergence des mouvements féministes de la Troisième République. Mais souvent, le travail qui a été fait sur cette ligue était en annexe, on peut dire, ou inclus dans des travaux plus vastes. Et donc là, il m'a semblé intéressant de revenir précisément, de faire un point un peu plus précis sur ce sujet. Alors, pour se remettre un peu dans l'ambiance, donc nous commençons le 6 juillet 1868, une soirée lors de laquelle une foule se rassemble, salle du Vauxhall à Paris, pour assister à la deuxième réunion publique traitant du travail des femmes. Les organisateurs ont spécialement invité les dames à venir et elles sont nombreuses dans l'auditoire. Un fait inédit, pour la première fois dans une période non révolutionnaire, des femmes osent monter à la tribune et s'adresser à la foule pour porter des revendications. Et André Léo fait partie de ces toutes premières oratrices. Après avoir fait lire un manifeste en faveur des droits des femmes, elle est appelée à venir s'exprimer par elle-même et, selon un compte-rendu anonyme, montre beaucoup d'éloquence pendant une demi-heure avant d'être applaudie. Ce manifeste, lu par André Léo et signé par 19 femmes, dénonce l'infériorisation des femmes dans tous les domaines et se conclut en déclarant « Nous formons une ligue pour une nouvelle déclaration des droits, non plus seulement ceux de l'homme, mais ceux de l'humanité et pour leur réalisation sociale. » Cette ligue, qui est ainsi inaugurée de façon informelle, va prendre progressivement forme jusqu'à devenir en 1866 la Société de la revendication des droits de la femme qui existera jusqu'à la guerre franco-prussienne de l'été 1870. Donc une organisation très brève, mais qui s'avère intéressante cependant à plusieurs titres. C'est la première association qu'on peut qualifier de féministe qui se forme en France depuis les brèves expériences de 1848. C'est une organisation qui s'inscrit dans le renouveau des luttes collectives de la fin des années 1860. Elle est conçue comme le lieu et un instrument de la démocratie et elle témoigne donc des aspirations politiques d'une partie de la société contemporaine. André Léo en est la cheville ouvrière, même si elle veille à ne jamais occuper une place prééminente. Et c'est elle qui, par sa conscience de genre particulièrement approfondie et par ses convictions démocratiques radicales dont on a parlé ce matin, façonne les objectifs et les concours de cette société. Donc c'est une association qui traduit vraiment ses convictions profondes et qui va rassembler ses différents combats. Et donc cet épisode a toute sa place, bien sûr, dans l'histoire des mouvements féministes. Donc je retracerai brièvement d'abord la genèse et puis les héritages de cette ligue. Je montrerai ensuite en quoi cette ligue incarne une aspiration universaliste, mais témoigne d'un positionnement marginal. Et puis je montrerai aussi en quoi cette ligue exprime le rêve d'une révolution démocratique et sociale non violente. En juin 1868, la question des femmes est d'actualité. En effet, donc on voit que c'est le tout premier sujet qui est pris pour ces réunions publiques qui sont autorisées à ce moment-là. Donc on est dans une période de libéralisation du Second Empire. Libéralisation relative, mais libéralisation quand même. Et donc, une loi autorise la tenue de réunions publiques au moyen d'une simple déclaration préalable, mais à condition de traiter de sujets non politiques et non religieux. Et les organisateurs doivent jouir de leurs droits civiques, et civils et politiques, et donc seuls des hommes peuvent être organisateurs. Mais d'une façon inattendue, ces assemblées vont pourtant attirer des femmes en nombre, et à Paris, du moins, vont fournir une tribune donc à certaines d'entre elles. Donc pourquoi ce sujet sur le travail salarié des femmes comme premier sujet mis à l'ordre du jour? Donc pour certains théoriciens et militants de l'opposition de gauche, il s'agit d'abord d'avoir un sujet ni politique ni religieux, au moins en apparence, et puis il s'agit d'essayer de régler quelques différends qui les opposent. Donc par exemple, régler certaines questions, comme faut-il s'adresser aux travailleuses autant qu'aux travailleurs, ou bien faut-il s'efforcer de faire rentrer les femmes au foyer? Ou bien la liberté et l'égalité signifient-elles la même chose pour les deux sexes? Autant de questions, donc, qui sont en réalité profondément politiques, qui seront traitées tout au long de ces débats de l'été 1868, dans les réunions parisiennes, mais aussi dans toute la presse nationale et régionale de gauche, et donc qui ont fourni à André Léo l'occasion d'intervenir publiquement. D'autres éléments ont pu aussi décider André Léo à rechercher une action collective. Elle a pu ainsi vouloir imiter ou concurrencer une autre initiative, élaborée en Suisse lors des mois précédents. Depuis mars 1868, en effet, la Suissesse Marie Goeg appelle à la création d'une association internationale des femmes. Son projet, à elle, consiste à former une section féminine de la Ligue internationale pour la paix et la liberté, une organisation qui a été fondée en septembre 1867 à Genève pour rassembler les démocrates de toute l'Europe. André Léo ne peut bien sûr ignorer cette création. Elle-même est liée à plusieurs membres actifs de cette Ligue internationale et elle collabore ponctuellement au journal de cette Ligue, les États-Unis de l'Europe. Et c'est dans ce journal que Marie Goeg annonce et défend son projet d'association le 8 mars, puis le 28 juin 1868. Et malgré l'absence de sources, on peut supposer qu'André Léo n'a pas souhaité se joindre à ce mouvement initié en Suisse, non seulement en raison de son éloignement, mais aussi sans doute, surtout, en raison d'une différence de position. L'époux de Marie Goeg, Armand, représente en effet une tendance plutôt modérée au sein de la Ligue internationale. Quant à Marie Goeg, elle déclare vouloir faire des femmes des agents de la paix et de la démocratie, avant tout dans le cadre de la famille, du ménage. Elle se montre donc très respectueuse des identités genrées et elle présente finalement la question des femmes comme une question sociale, alors qu'André Léo en fait une question éminemment politique. Donc, en cette fin du mois de juin 1868, le terrain de la question des femmes, pour reprendre la terminologie de l'époque, menace d'être occupé à la fois par les socialistes parisiens, dont une majorité est fidèle à la ligne officielle de l'AIT, et donc notoirement hostile à l'égalité des sexes, et par les démocrates de la Ligue internationale, dont Marie Goeg représente donc une tendance plutôt modérée et bourgeoise, entre guillemets. Rien d'étonnant donc à ce que André Léo décide rapidement de prendre l'initiative d'une action collective qui pose différemment les termes du débat. Sa correspondance témoigne d'ailleurs de la précipitation avec laquelle elle sollicite les signatures pour son manifeste, alors qu'elle n'a pas encore eu le temps de donner véritablement forme à son projet. L'étude des signatures et du contenu du texte montre qu'André Léo a cherché à donner une double légitimité à son manifeste. Celui-ci est censé faire entendre la voix des femmes issues du peuple, animées par des convictions socialistes, et se situer dans la continuité des idéaux révolutionnaires de 1789. Ce manifeste est signé par 19 femmes seulement, mais il semble qu'André Léo ait soigneusement sélectionné ses signatures. Une lettre de Pauline Baucher, qui est enseignante à l'école professionnelle de filles, nous apprend qu'André Léo se refuse à solliciter quelques-unes des dames de cette école, bien que celles-ci soient impliquées dans la défense des droits des femmes. Sans doute lui paraissent-elles politiquement trop tièdes ou socialement trop bourgeoises. André Léo préfère se tourner vers des femmes qui sont inconnues, mais qui sont engagées à gauche. En l'occurrence, 8 habitantes de Puteaux, au nord de Paris, qui sont membres de l'association Ouvriers et Ouvrières de Puteaux, alors dirigée par Benoît Malon. Et puis on trouve aussi, parmi les signatures parisiennes, les épouses d'Élisée Reclus et de Paul Lacombe, qui sont des amis d'André Léo, ainsi que Maria Gagneur, qui est auteure de nombreux feuilletons qui sont avec des thématiques féministes et socialistes. Seules des femmes ont été sollicitées pour signer ce texte. Cette non-mixité, qui est inédite là aussi depuis 1848, revient à affirmer la nécessité pour les femmes de s'émanciper elles-mêmes et de démontrer leur détermination et leur capacité. Il ne s'agit pas de placer les femmes dans une catégorie à part, bien au contraire. À la différence de la plupart des textes de l'époque qui sont publiés en faveur des femmes, il n'est pas question ici dans ce texte de la femme en tant qu'une catégorie qui serait naturelle, essentialisée. Ici, la femme qui est mentionnée, c'est une catégorie sociale et politique qui est définie par la domination masculine. Qu'elle soit riche ou pauvre, elle subit le même assujettissement dans le déni de son individualité. L'objectif du manifeste est, selon l'explication qu'André Léo donne dans la presse, de faire comprendre à la démocratie encore divisée sur ce point combien la liberté et l'égalité, nécessaires à la dignité et au développement de l'être humain, sont par conséquent nécessaires à la femme. En fréquentant les milieux démocrates, les signataires du manifeste ont en effet pu expérimenter le décalage entre les idéaux égalitaires qui sont professés et le refus d'une majorité d'hommes de les appliquer aux femmes. C'est à eux donc qu'elles s'adressent implicitement dans ce texte politique qui est destiné à convaincre avec une logique très rigoureuse. Alors, dès les premiers mots, elles se réfèrent à la Révolution française, qui est présentée, donc, comme on l'a vu ce matin, donc, comme une rupture fondamentale puisqu'elle fait reconnaître le droit de l'individu. Et elle cite explicitement Condorcet, qui posa la question de la citoyenneté des femmes et se proclame héritière des principes révolutionnaires pour appeler à leur mise en œuvre. Le texte se conclut par la revendication de la liberté, qui, je cite, « seule permet et développe le respect de soi », de l'égalité devant la loi dans le mariage et dans le travail, de la fraternité entre hommes et femmes pour remplacer les faux respects mêlés à l'oppression. Et enfin, le texte établit une continuité entre les idéaux de 1789 et l'action entreprise par les travailleurs ligués pour la revendication de leurs droits qui agissent pour une répartition équitable des biens. De façon allusive, l'Association internationale des travailleurs est ainsi prise en exemple par ces femmes pour fonder leur propre ligue. Et les convictions socialistes des signataires affleurent en outre dans le parallèle qui est établi entre l'oppression de classe pesant sur les travailleurs et l'oppression genrée qui pèse sur toutes les femmes. Donc, dès ces premières lignes et ces références à la Révolution, on voit une aspiration véritablement universaliste. Mais le positionnement de la Ligue va rester très marginal. Malgré les applaudissements qu'elle paraît avoir récoltés le 6 juillet, André Léo a apparemment eu des difficultés à faire publier son manifeste. Donc le 13 juillet, la semaine d'après, elle publie un nouveau discours au Vauxhall, lors duquel elle appelle les démocrates à se prononcer en choisissant la liberté des individus contre le principe de hiérarchie et d'obéissance. Et une semaine ensuite encore, le manifeste paraît enfin dans l'opinion nationale, puis dans le Progrès de Lyon. Et dernière publication d'ailleurs à Lyon qui va susciter l'adhésion de 19 lyonnaises. Je pense qu'elles ont mis un point d'honneur à être aussi nombreuses que les 19 parisiennes. Et parmi lesquelles, certains membres d'une section de l'Internationale. Rappelons quand même au passage que même si 19 plus 19, ça paraît assez peu comme nombre, il faut à cette époque, à ce moment-là, un certain courage aux femmes qui rendent ainsi public leur nom et leur engagement. Une troisième fois, le 20 juillet, André Léo se rend au Vauxhall pour présenter sa ligue et puis recruter. Cependant, bien que plusieurs femmes se prennent désormais la parole à chaque réunion, les débats qui se poursuivent durant tout l'été montrent la prédominance d'un courant hostile à l'égalité des sexes dans la lignée des résolutions prises au congrès de l'AIT de 1866 et 1867. Finalement, le 31 août 1868, la série de ces réunions du Vauxhall est close avec le vote de 10 résolutions qui finalement renvoie les femmes à leur devoir d'épouse et de mère. Donc, comme en 1848, 20 ans après, les revendications portées par André Léo et ses compagnes semblent totalement inaudibles par la majorité du mouvement démocrate et, a fortiori, à l'intérieur du mouvement socialiste. Mais, malgré cet échec apparent, cette expérience s'avère extrêmement féconde pour André Léo. Et au cours de l'été 1868, et puis dans les mois qui suivent, elle publie plusieurs articles, un roman, donc « Aline Ali », et un essai « La femme et les mœurs », où elle développe des analyses très lucides sur les enjeux politiques de son temps, vues à travers le prisme des résistances à l'émancipation des femmes. Et dans le même temps, elle continue à chercher des soutiens pour la Ligue qu'elle a annoncée. Celle-ci se réunit finalement en janvier 1869, et donc on voit un changement de stratégie, puisque les membres donc, de cette nouvelle Ligue recherchent une action pragmatique et consensuelle. La majorité rejette la réclamation de la citoyenneté immédiate, et l'unanimité se fait sur la question de l'égalité civile et sur la question de l'éducation. Deux chantiers sont donc initiés. À moyen terme, la création d'une école démocratique pour les filles et à court terme, la rédaction d'un texte destiné à dénoncer l'iniquité du code civil. En mars 1869, la revendication des droits civils refusés à une moitié de la nation, pour reprendre le titre du texte, est rédigée et envoyée à la presse. Donc là, le but est de sensibiliser l'opinion publique aux inégalités concrètes dont souffrent les femmes, en en démontrant les méfaits pour l'ensemble de la société. Le texte lance un appel particulier aux ouvriers, en leur signifiant que l'infériorisation du travail féminin leur est préjudiciable, et à l'ensemble des démocrates, en leur rappelant que la fonction éducatrice des femmes leur donne le pouvoir de retarder les progrès généraux, si elles-mêmes s'en trouvent exclues. Le texte joue donc sur divers types d'arguments, afin de rallier tous ceux qui, dans le camp démocrate, diffèrent l'égalité des sexes, en attendant la démonstration de la capacité des femmes. Et enfin, il s'agit aussi sans doute d'obtenir des garanties dans la perspective d'une arrivée au pouvoir des républicains. André Léo et ses proches montrent bien qu'il est impossible de construire une société démocratique en conservant le code napoléonien. À ce moment-là, donc, les hommes sont invités à se joindre à un mouvement qui se veut mixte, tout en préservant la part d'initiative des femmes. La mixité est également sociale et politique. Parmi les 38 premières signataires de cette revendication, on trouve des représentantes de la bourgeoisie républicaine, des démocrates qu'on pourrait dire modérés, et des socialistes déclarés, tels que toujours les internationalistes de Puteaux, Noémie Reclus ou bien Louise Michel. La revendication fonctionne comme une pétition. Les signatures sont publiées par le journal Le Droit des Femmes entre avril et septembre 1869. Dans cet intervalle, 128 autres femmes et 122 hommes donnent leur nom. Ils proviennent en majorité de Paris, de sa banlieue, mais aussi de la province et même d'Algérie. Divers réseaux se mobilisent là. Les francs-maçons progressistes, des anciens saint-simoniens, des libres penseurs, mais aussi des représentants de la minorité internationaliste qui sont favorables à l'égalité des sexes, tels que les Reclus, Benoît Malon, bien sûr, Eugène Varlin. Donc on voit que les idées portées par André Léo se diffusent dans les principaux cercles de la mouvance démocratique, mais ne rallient qu'une infime minorité active. On peut compter très grosso modo à peine plus de 150 familles hein, donc, qui sont touchées en 5 mois. Et une minorité qui est recrutée d'ailleurs, surtout dans les classes moyennes et bourgeoises, hein, à partir des éléments un peu épars qu'on a. Ne disposant que de son propre journal, la Ligue doit donc trouver des relais dans la presse pour se faire connaître. Donc André Léo publie régulièrement dans certains journaux de l'opposition, mais elle compte s'appuyer tout particulièrement sur le droit des femmes. Donc c'est un hebdomadaire qui a été créé au printemps 1869 par le républicain Léon Richer. Celui-ci cherche à rallier les femmes à la démocratie et sollicite la collaboration d'André Léo. Mais après quelques mois de coopération, Léon Richer s'approprie la paternité de la revendication pour les droits des femmes. Et il cherche même à occulter l'existence de la Ligue en faveur des droits des femmes. Donc un conflit, bien sûr, s'ensuit avec André Léo, qui tente en vain de faire insérer des rectificatifs. Et dans sa correspondance avec Léon Richer, elle constate amèrement que ce dernier profite de son statut de rédacteur-directeur et de ses liens avec ce qu'elle appelle les notabilités de la démocratie pour s'assurer une notoriété qui est supérieure à celle de la Ligue. Elle plaide pourtant pour une complémentarité entre ce qu'elle appelle l'élément populaire, donc la Ligue, et l'élément bourgeois, qui sont les réseaux de Richer. Mais André Léo déplore que ce dernier veuille s'imposer dans une logique de concurrence et de hiérarchie. André Léo se retire donc du droit des femmes en août 1869, mais elle conserve sans doute des amitiés au sein de la rédaction, par exemple auprès de Maria de Rheims, et le journal continue d'informer sur les activités de la Ligue, même si Léon Richer fonde en 1870 une association concurrente, l'association pour le droit des femmes, et avec laquelle souvent des confusions ont été opérées avec la Ligue d'André Léo. André Léo est certainement jugé trop radical par Léon Richer, qui ne partage ni sa critique des identités de genre, ni sa conviction que les femmes doivent s'émanciper par elles-mêmes. Toutefois, l'élément de classe joue certainement aussi un rôle. Bien qu'André Léo soit elle-même issue de la bourgeoisie, elle cherche inlassablement à œuvrer en compagnie des classes populaires, sans jamais revendiquer quelque position dominante que ce soit. Et pourtant, cette même année 1869, André Léo a violemment été rejeté du côté des socialistes bourgeois par Bakounine et ses partisans dans les colonnes du journal L'Égalité. La lyonnaise Virginie Barbet, donc, qui est membre de l'AIT et qui avait signé le manifeste de 1868, critique la revendication des droits civils comme étant l'émanation de traîtres réformistes qui préfèrent demander l'augmentation du salaire des femmes plutôt que l'abolition du salariat et qui préfèrent parler de droits et de liberté plutôt que de lutte des classes et d'égalité. Le mouvement initié par André Léo reste donc inclassable. Refusant toute logique partisane et exclusive, il reste un objet politiquement non identifié qui est rejeté par les courants majoritaires du socialisme et qui est aux marges de l'opposition démocrate, alors même que ce mouvement tient à incarner les valeurs qui sont au centre des idéaux démocratiques et socialistes. Et donc cette Ligue va quand même continuer d'exister et d'essayer de faire advenir son rêve d'une révolution démocratique et sociale non violente. Donc on peut même, à mon avis, employer le terme de libertaire, comme ça a déjà été fait ce matin, au sujet de ce projet donc, porté par la Société des revendications des droits de la femme. Donc celle-ci se constitue en société civile officiellement en septembre 1869 et l'étude de ses statuts révèle les aspirations égalitaires des initiateurs. La liste des 14 signataires fondateurs témoigne d'une volonté de parité, on a 7 femmes et 7 hommes, mais aucune distinction n'est faite entre hommes et femmes dans les statuts. Il n'est pas question donc ni de parité officiellement, ni de quotas, ni de réserver des fonctions particulières à l'un ou l'autre sexe. Les fondateurs, qui sont tous des Parisiens, viennent de différents milieux. On compte 2 ouvrières, 2 ouvriers artisans qualifiés, 3 femmes sans profession, une institutrice, un professeur, une femme de lettres, donc André Léo, et un homme de lettres, ainsi que 3 hommes de profession libérale. La souscription minimum s'élève à 25 centimes, qui est une somme relativement faible, qui est censée garantir l'accès de la société à tous, et chaque adhérent est libre de fixer le montant de son versement et l'époque. On n'a pas commencé à 14h. J'ai pas commencé à 14h. Donc, et hormis, c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a que André Léo parmi ses signataires qui fait partie aussi des précédentes signataires du manifeste de juin 68. Donc on voit que le groupe porteur s'est recomposé et que c'est André Léo qu'on retrouve à chaque étape et donc son rôle est vraiment clé. Mais rien ne la distingue officiellement des autres. Les statuts ne prévoient absolument pas de fonction prééminente mais organisent au contraire une responsabilité collective. Et cette société déclare se former dans le but de créer une école de filles dès qu'elle disposera d'une certaine somme et de faire œuvre de propagande pour hâter la reconnaissance des droits de la femme, suivant l'expression au singulier. La collecte des fonds et l'activité de propagande se déroulent ensemble. En effet, les associés participent au mouvement de conférences qui est alors très en vogue dans les grandes villes, qui mêle éducation populaire et agitation démocratique. Donc voilà, les thèmes sur lesquels je reviendrai à l'écrit plus longuement sont des thèmes propres à assurer à la fois la diffusion des idées démocratiques et la défense des droits des femmes. Par exemple, il y a une conférence sur Madame Récamier et Madame de Staël, donc 2 femmes qui ont résisté à Napoléon Ier. Donc il y a toute une allusion politique à Napoléon III et en même temps promotion des droits des femmes. Donc on a une propagande par la parole et la société essaye de passer à une propagande par le fait. Donc ce projet d'école qui est... est exposé dans divers articles d'André Léo. Donc selon ces textes, il s'agit vraiment de prouver par une expérience concrète que la transformation politique et sociale est possible pacifiquement à la condition d'éduquer les enfants dans le respect des valeurs démocratiques et des droits individuels. Le droit des femmes publie en septembre 69 le programme et le règlement de l'école, donc c'est vraiment déjà très précisément exposé. Donc cette école serait pour les filles de 6 à 12 ans. Elle repose sur des principes pédagogiques novateurs. L'objectif, c'est l'épanouissement des enfants. C'est une méthode qui rappelle un peu ce qui se faisait déjà à l'époque en Allemagne avec la méthode Froebel. Et donc il s'agit de se conformer aux besoins et aux facultés des enfants au lieu de les violenter, dit André Léo, par des systèmes préconçus. Donc c'est une école bien sûr laïque, où une morale démocratique doit remplacer la religion, mais ce n'est pas non plus une morale qui serait imposée. Elle doit être formulée par les enfants eux-mêmes au terme de questionnements et de débats entre eux. Et le règlement évacue toute forme de violence. Et il s'agit donc d'être aussi, le règlement doit être expliqué et accepté par les élèves. Donc, il s'agit aussi, bien sûr, de fournir aux filles une instruction et dans des disciplines qui ne leur sont pas normalement accessibles. Quand il s'agit dans le programme d'économie domestique, il n'est pas du tout question de couture ou de ménage, mais d'éléments de comptabilité ou de droit. Donc on voit qu'il y a bien plutôt une ouverture sur un avenir professionnel qu'un enfermement domestique. Donc rien ne prédispose les élèves à une quelconque mission éternelle de la femme au service du foyer et de l'humanité, mais au contraire, dit André Léo, il s'agit d'élever des citoyennes comme il faudrait élever des citoyens. Donc une initiative qui est minoritaire et marginale, certes, mais qui semble répondre aux aspirations d'un nombre suffisant de personnes pour pouvoir être concrétisée. Donc à la mi-juillet 1870, André Léo affirme qu'une directrice a été recrutée par concours et elle annonce les noms donc, des sociétaires qui vont se porter volontaires pour assurer les cours. On trouve entre autres donc, Paul Lacombe, Élisée Reclus, parmi d'autres noms connus de la mouvance démocratique de l'époque. L'ouverture de l'école est prévue pour octobre 1870, mais le début de la guerre franco-prussienne impose d'autres urgences et la Société pour la revendication des droits disparaît. Aucune des associations féministes qui se formeront dans les années 1870-1880 n'aura la même radicalité. Quant à l'école des filles de la Troisième République, elle intègre totalement, elle, la soumission aux normes du féminin qui prive les femmes de leur individualité et perpétue leur exclusion de la citoyenneté. Donc, pour conclure, l'association donc, qui a été créée par André Léo a été conçue comme un projet émanant de la société destiné à la fois à défendre les droits des femmes et à bouleverser le fonctionnement de la société pour achever la révolution entreprise en 1789. Il s'agit donc d'un mouvement profondément politique, mais hors de toute affiliation partisane, à une époque où les différentes familles de la gauche cherchaient justement à se distinguer et à s'opposer. Construit sur les idéaux de la démocratie et sur les valeurs socialistes, ce mouvement collectif n'a pas manqué de dénoncer les contradictions et les trahisons des démocrates et des socialistes, à un moment où ceux-ci cherchaient justement à recruter le plus largement possible afin de faire basculer le régime. Enfin, l'initiative d'André Léo, visée à refuser et à brouiller les identités de classe tout autant que les identités de genre, afin de donner aux individus leur liberté entière d'action. Or, même de gauche, la bourgeoisie, à ce moment-là, entend bien occuper le devant de la scène et incarner une sorte d'avant-garde éclairée. Pour toutes ces raisons, donc, la Ligue puis la société sont restés des mouvements marginaux. On est bien loin, par exemple, du succès de la Ligue de l'enseignement, qui est fondée par Jean Massé en 1866, qui recrute 5000 adhérents en un an et qui, en 1870, recueille 350 000 signatures en faveur d'une instruction gratuite et obligatoire. Toutefois, André Léo est à mille lieues de la neutralité très prudemment revendiquée par Jean Massé. Et on peut ainsi affirmer que les quelques centaines de personnes qui ont marqué d'une manière ou d'une autre leur adhésion aux idées portées par André Léo témoignent d'une radicalité politique certes minoritaire, mais bien présente en cette fin de Second Empire. Plusieurs de ces personnes tentent d'ailleurs, comme André Léo elle-même, de faire triompher leurs idées lors de la Commune de Paris. Et après l'échec de celle-ci, c'est dans le milieu socialiste libertaire que renaîtra la même aspiration à une révolution non violente, par la parole et par l'exemple, fondée sur l'éducation et sur la lutte collective pour parvenir à une démocratie réelle. Merci.
Eh bien, bravo. Bon, je mesure l'ingratitude de ma fonction qui stresse un petit peu et qui oblige à aller vite alors que c'est un sujet où il faudrait évidemment avoir le temps de s'étendre. Alors, je vais être court. Moi, je retiendrai essentiellement que aux idées qui sont foisonnantes chez André Léo s'ajoutent, je crois, des qualités de stratège. Elle a une stratégie pour essayer de persuader le plus de gens qu'elle a raison. Et alors, ça s'appelle la Ligue, ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle les tribunes de propagande, ça s'appelle aussi la mouvance démocratique. Mais évidemment, dans le contexte de l'époque, c'est très, très difficile. Elle se heurte à beaucoup d'obstacles. Et je crois que son succès, ça sera pour l'avenir. Voilà. Merci donc, Alice, d'avoir respecté parfaitement bien l'horaire. Alors, je crois que l'enchaînement va être facile, hein, puisque le mot « instruction » a été souvent prononcé. Aujourd'hui, Fernanda, donc Gastaldello, se pose la question, je crois, de l'émancipation du peuple par l'instruction, thème qu'a traité André Léo dans plusieurs de ses œuvres. Est-ce nécessaire de rappeler que Fernanda est docteur en lettres, histoire et littérature moderne, elle est professeure à Rovigo en Italie, et on le disait ce matin, mais je me plais à le rappeler, c'est sa thèse soutenue en 1979 qui a lancé dans le Poitou les recherches sur André Léo qui permettent ce colloque d'aujourd'hui.
Oui, merci Louis. Oui, bonjour à toutes, à tous. Je suis heureuse d'être ici à Poitiers encore une fois pour parler d'André Léo. Et me rattachant à ce que Louis vient de dire, je veux bien rappeler que la première fois qu'on a fait une réunion sur André Léo à Poitiers, c'était ici en face au musée de la Croix, lors de la journée de la femme du 8 mars 1984, quand l'association alors avait organisé cette journée pour commémorer la figure d'André Léo. Et je tiens aussi à remercier, excusez-moi, mais Monsieur Camille Sabourin, qui a été la personne qui m'a fait connaître Lusignan, Champagné-Saint-Hilaire, parce qu'il était à l'époque secrétaire de mairie de Lusignan, et c'est lui qui a trouvé, sur mon indication, l'acte de naissance de Léodile Béra à Lusignan. Et voilà, après cette brève introduction, je présente le thème que je vais, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le pouvoir de l'éducation chez André Léo, c'est le titre que j'ai donné pour cette présentation d'aujourd'hui. Je vais tout d'abord présenter très synthétiquement, parce qu'on n'a pas le temps, le contexte législatif de l'instruction primaire au XIXe siècle en France, l'instruction publique, pour analyser un peu après les idées éducatives d'André Léo, des idées qu'on trouve dans sa production littéraire, notamment ses romans, mais aussi des essais, comme on verra, pour arriver à découvrir ensemble quel est le rôle qu'elle a voulu donner à l'éducation, justement, qui est un rôle, c'est le propulseur d'une prise de conscience du peuple pour parvenir, comme disait Pierre Alice tout à l'heure, pour parvenir à une démocratie réelle. Et j'aime commencer par cette phrase que j'ai tirée de Coupons le câble, un traité qu'elle a écrit un an avant sa mort. Et par cette phrase, vous pouvez voir qu'il y a un lien étroit, elle établit un lien étroit entre l'élévation individuelle, c'est-à-dire une prise de conscience de ses droits, de ses devoirs, par l'éducation, et l'élévation de l'humanité. Donc il y a ce rapport très direct et concret entre l'éducation du peuple et l'élévation de l'humanité même. Ici, bon, j'ai voulu synthétiser les principales lois sur l'éducation primaire au XIXe siècle. Il y a des lignes, mais je ne vais pas les ouvrir pour une question de temps. Mais je voulais souligner que toutes ces lois montrent un conflit entre l'Église et la société civile, dans le sens que depuis la Restauration, l'Église avait un rôle très fort et dans l'école publique. Elle avait un rôle de contrôle, soit dans l'administration que dans l'enseignement même. Et ce sera avec la loi Falloux que cette ingérence, comme l'appelle André Léo, aura le maximum de pouvoir. On ne parlera de laïcisation de l'enseignement qu'avec la loi Duruy, et on parviendra à une laïcisation complète de l'école publique qu'avec la loi Goblet, donc vers la fin du siècle, hein, 1886. Et quelle était la situation de l'éducation en général chez le peuple, auprès du peuple au XIXe siècle? L'ignorance était très répandue en France, même si déjà avec la loi Guizot, on commençait à parler de gratuité et donc que le peuple pouvait fréquenter l'école primaire gratuitement. Et avec la loi Guizot, il y a toujours plus d'écoles primaires qui ouvraient dans les villages. Et donc là aussi, il y avait la possibilité de fréquenter l'école. Mais le peuple n'allait pas facilement, les enfants du peuple n'allaient pas facilement à l'école. Ils avaient à gagner leur pain et puis ils trouvaient l'école inutile. Et donc c'est dans ce contexte législatif, politique, que André Léo commence à écrire ses premiers romans. Ce sont les années qui vont entre les... Ce sont après la loi Falloux et puis elle continuera d'écrire jusqu'à la fin du siècle, à l'année de sa mort. Elle est morte en 1900. Et dans sa grande production littéraire, mais aussi et donc dans les romans comme dans les traités, elle va affronter le thème de l'éducation pour voir comment le peuple pourrait s'en sortir pour trouver sa voie à l'émancipation. Et donc, par ce schéma, j'ai synthétisé les quatre point incontournable de sa pédagogie qu'on peut trouver dans, dans son œuvre littéraire, à partir, à l'opposé de la pédagogie traditionnelle, elle oppose une pédagogie qui s'appuie sur l'élève qui devient le centre de l'intérêt. Et cet élève parviendra à la connaissance à travers une méthode active, une méthode collaborative, pratique, à travers aussi des programmes qui soient utiles et attrayants, parce que sinon le peuple ne sera pas intéressé à fréquenter l'école. Et enfin, l'enseignement laïque, qui est la question fondamentale, clé de l'école républicaine. Et donc, en quoi consistait pour elle cette pédagogie centrée sur l'élève? Il fallait partir, non pas des programmes comme l'était à l'époque, mais des intérêts de la psychologie de l'élève, de ses besoins et même de ses rythmes. Il faut savoir attendre qu'il soit prêt à l'apprentissage. Et la pédagogie, il faut que ce soit une méthode appliquée à la nature, à l'expérimentation, à la pratique, parce que l'enfant ne peut pas apprendre à travers l'abstraction, mais uniquement par l'observation. Ce qu'elle conteste aussi, ce sont les méthodes de l'époque qui mortifiaient l'élève, qui faisaient apprendre par l'utilisation de méthodes violentes. L'élève apprenait parce qu'il avait peur du maître. Alors que André Léo sollicite l'intérêt de l'élève. On ne peut pas apprendre parce qu'on a peur du maître, il faut apprendre parce qu'on trouve de l'intérêt à ce qu'on va apprendre. Donc enseigner, c'est captiver l'attention. Et il n'y a pas d'autre moyen si l'on ne veut pas abêtir l'enfant et le faire souffrir et le dégoûter de l'étude. Il s'agit donc, s'il faut partir de l'élève, il s'agit de stimuler sa curiosité, son élan naturel à l'apprentissage. Il suffit tout simplement de savoir l'orienter et de, par des images, par des récits qu'on va lui raconter pour qui pourraient retenir après son attention sur certains événements ou problèmes. Il faut donc, comme je disais tout à l'heure, enseigner par des exemples concrets parce que l'abstraction n'est pas son fait et que la science doit être étudiée au point presque exclusif de l'application. À ce sujet, je voudrais ajouter qu'elle demande aussi à l'enfant d'être conscient du progrès qu'il va, de ses connaissances. Il doit être conscient et collaboratif. Elle dit par exemple qu'il n'apprendra jamais à écrire s'il ne sent en lui, s'il ne sent pas en lui la nécessité de l'écriture. Et donc, elle fait des exemples. Par exemple, un instituteur, s'il se trouve devant un enfant qui n'a pas envie d'apprendre à écrire, peut le mettre dans la situation concrète de devoir aider quelqu'un qui a nécessité d'avoir un médecin, par exemple, parce qu'il est en difficulté, que cette personne est malade, et il doit pouvoir être capable d'écrire un petit mot pour le médecin. Alors, si l'enfant comprend la nécessité de l'écriture, il va apprendre plus facilement à écrire. Donc, c'est une méthode qui n'impose rien, et elle veut que l'enfant arrive lui-même à comprendre l'utilité de ce qu'il doit faire. Il s'agit donc de le solliciter au raisonnement et contre les méthodes de l'époque qui se basaient essentiellement sur la mémorisation, sur des programmes ennuyeux. Donc il faut lui proposer en même temps des programmes adaptés à lui et le faire raisonner sur l'intérêt de ce qu'il doit apprendre. Et donc, pour revenir à une école pratique, elle parle dans les deux fils de M. Plichon de l'école buissonnière, qu'il ne faut pas attendre dans le sens actuel du mot. Elle en a parlé comme d'une école ouverte en plein air où l'enfant sortirait de la classe pour être au contact de la nature et donc pour expérimenter sur champ des connaissances. Et donc, dans les deux filles de M. Plichon, on peut lire cette phrase: nous irons dans les champs, le long des haies, dans les bois, chercher des insectes ou des plantes. J'ai voulu insérer de petites diapositives sur l'éducation dans la famille, parce que l'école et la famille doivent travailler ensemble pour la formation de l'enfant. Et la famille a des devoirs à l'égard de l'enfant. Il doit tout d'abord le respecter dès sa naissance, et respecter et ses rythmes. Il ne s'agit pas de trop le solliciter pour qu'ils apprennent tout de suite les choses. Elle dit, c'est un beau langage aussi poétique, qu'il ne faut pas troubler par des cris, des grimaces, des soubresauts cette germination calme et charmante du petit humain, parce que c'est déchirer une fleur pour en hâter le développement. Elle donne plein de conseils dans la famille au droit et l'éducation nouvelle sur l'éducation des enfants. En particulier, il ne faut pas les gâter pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être trop au centre de l'attention parce qu'ils ne deviennent pas de petits rois. Il ne faut pas les frapper, par exemple, parce que sinon ils obéiraient, mais ils ne comprendraient pas le pourquoi des choses. Il ne faut pas mentir à l'enfant parce qu'il faut lui apprendre la vérité, le sens de la vérité. Il faut le solliciter à être responsable à l'intérieur de la famille en lui donnant des tâches familières, par exemple, à accomplir. Il faut toujours répondre à ses curiosités par des exemples. Et enfin, comme on disait ce matin, le rôle de la nature est toujours très important. Donc, il pense qu'il vaut mieux vivre à la campagne plutôt qu'en ville. Parce qu'à la campagne, on aura une plus grande possibilité de connaître, d'expérimenter. En plus, l'air y est plus sain et le corps se fortifie. Donc, on voit que l'œuvre d'éducation de la famille se rallie à l'éducation que doit donner l'école pour former une moralité et non seulement la connaissance. Donc, qu'est-ce qui doit changer dans l'éducation de la morale, essentiellement dans l'école du temps? Alors, André Léo se rallie aux républicains de l'époque qui préconisaient la laïcisation de l'école. Or, j'ai dit tout à l'heure, au début, que l'Église avait un rôle essentiel dans l'enseignement, et dans l'administration et dans l'enseignement. Même après la loi Falloux, le curé pouvait entrer dans les classes, il pouvait interroger les élèves, il pouvait imposer à l'instituteur des lectures édifiantes, même si l'instituteur n'était pas d'accord. Il y avait aussi les écoles de sœurs qui étaient fréquentées par les filles notamment, qui avaient des méthodes souvent punitives. Au contraire, comme les républicains, je disais, de l'époque, elles pensent que l'école doit se fonder sur le progrès de l'homme, sur les progrès de la science, et qui s'appuie non sur le dogme de la religion, mais sur la raison de l'homme. Et cette situation de fait était approuvée, appuyée par la bourgeoisie, par les classes dominantes, c'est-à-dire la bourgeoisie conservatrice et les aristocrates, qui avaient donné à l'Église un rôle de défenseur de l'ordre établi. Et j'ai cité cette phrase prise de Jacques Galeron, qui est prononcée par une amie à la mère de Suzanne. Alors Jacques avait été éloigné, Jacques est l'instituteur du village, il est éloigné de ses fonctions parce qu'il n'avait pas voulu désavouer les idées de son grand-père qui était à faveur de la Révolution française. En plus, il avait osé ne pas adopter un livre que le curé avait conseillé d'adopter, et donc le curé l'avait éloigné de ses fonctions. Et la mère adoptive de Suzanne, qui est l'épouse de Jacques, écrit alors une lettre à une amie de la bourgeoisie pour demander son intervention, pour qu'elle puisse, avec son mari, aider Jacques à être à nouveau admis dans l'enseignement. Et la dame, tout en reconnaissant les raisons de Jacques et donc en reconnaissant l'injustice qu'il avait subie, elle dit qu'elle n'y peut rien parce que la France a prouvé qu'elle voulait être gouvernée. Elle n'est donc point majeure, elle a besoin de lisières et l'Église les fournit. Donc elle justifie de fait la présence de l'Église dans l'école publique et la défend. Voilà. Donc, la religion définit une sombre nuée qui cache la route. La route, c'est la route, au contraire, la route qu'il faudrait parcourir, ce serait la route qui avait été dessinée par la Révolution française de 1788 et qui, au contraire, l'école actuelle de la loi Falloux, parce que Jacques Galeron, c'est de 1865, donc c'est l'époque de la loi Falloux. Au contraire, donc, l'école du temps, c'était l'école du dogme, l'école qui ne marchait pas, qui ne voulait pas le progrès de la raison de l'homme. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation qui montre l'opposition, le conflit entre l'Église, entre la religion et l'idée de l'école moderne que André Léo préconise, ce conflit que est difficile à résoudre. Au contraire, l'école devrait montrer la voie, elle ne devrait pas la cacher, comme on découvre dans Le Petit Moi, qui est un autre roman écrit vers la fin de la carrière de la vie d'André Léo, et où le petit Pierre découvre peu à peu, avec l'aide de son institutrice, il parvient peu à peu à découvrir quelles sont les valeurs, donc quelle est la morale qu'il faudrait vraiment suivre. Et donc il parvient lui-même, comme disait tout, du reste Alice, il parvient lui-même à la prise de conscience des valeurs qu'il faut posséder. Et il dit, voyons alors, qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est tout de même de faire ce qu'on veut, pourvu que ça ne fasse pas de tort aux autres. Et l'institutrice ajoute, et pas de tort à soi-même non plus. Donc c'est une morale humaine qu'il faut acquérir directement par des exemples, mais seulement comme ça, on en devient vraiment profondément conscient. La difficulté majeure, c'est que le peuple redoutait à l'époque l'instruction. La misère, les difficultés économiques étaient telles que l'enfant pauvre ne fréquentait pas l'école. Il devait garder le bétail ou bien accomplir des tâches ménagères ou même mendier, comme on dit ici. Et même s'il y avait des places gratuites depuis 1933, et même si très peu, l'enfant refusait d'aller à l'école parce qu'il la trouvait un luxe inutile. À quoi sert-il d'aller à l'école, disait-il. C'était un luxe inutile. Les paysans, en effet, se méfiaient de l'instruction. Elle ne la trouvait ni attrayante ni utile à leur travail. Ils ne savent pas pourquoi tel pré ne donne pas de foin et ce qu'il faudrait y faire. Donc, ce que André Léo propose dans ses romans, c'est d'offrir dans l'école des programmes qui soient utiles et attrayants pour justement attirer le peuple vers l'école. Et elle conserve les enseignements traditionnels comme la lecture, le calcul et l'écriture, mais elle leur donne une approche différente, un peu plus pratique. Donc la lecture deviendra une lecture instructive et pas une lecture édifiante. On devra apprendre quelque chose en lisant. Le calcul ne sera pas théorique, mais il sera appliqué à la pratique, notamment au calcul appliqué dans les champs, par exemple. L'écriture sera bientôt créative. Dès la troisième année, on écrit de tête, c'est un devoir de style et d'orthographe à la fois. Les sciences seront étudiées de façon appliquée. On voit qu'elle parle de plantes, d'animaux, d'insectes, mais elle arrive aussi à parler des systèmes solaires. Et une place très importante est donnée à l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Parce que à l'époque, on enseignait surtout l'histoire des conquêtes, l'histoire des guerres, l'histoire des monarchies. Ce qu'elle voudrait proposer aux élèves, c'est aussi l'histoire des masses, à travers, par exemple, des portraits de grands héros positifs qui donneraient aux enfants des exemples à suivre. Elle proposerait aussi d'autres matières, comme nous dit Dalhotel dans sa Junon de la Commune, dans l'école pour filles dont Alice vient de parler. Il y a aussi d'autres matières pratiques, comme celles que vous voyez là. Dans la société de revendication des droits de la femme, dont je ne vais pas reparler parce que Alice a très bien expliqué mieux que moi son origine, et je veux tout simplement dire que dans cette école de filles qu'elle avait préconisée, dont ils avaient déjà écrit les statuts, les programmes et tout, l'objectif était triple. Non seulement la connaissance, les connaissances, mais à côté de cette connaissance, il fallait appliquer la connaissance, donc au savoir faire quelque chose, et pour arriver au savoir être, au savoir être conscient donc de ses droits, de ses devoirs, de savoir être citoyen. Et donc, j'ai résumé ici l'objectif de l'éducation chez André Léo, donc la formation, qui est la formation du citoyen, de la personne, donc d'une personne consciente de faire part d'une société et donc à l'intérieur de cette société, de savoir agir pour la transformer. Il deviendrait l'élément déclencheur d'une société nouvelle, ouverte, d'une réelle démocratie. Et on peut y parvenir non pas tant à travers les révolutions, des révolutions armées, mais on peut y arriver uniquement du dedans, de l'intérieur, d'une transformation intérieure de l'homme qui devrait prendre conscience donc de ses droits, de ses devoirs, mais aussi de son pouvoir vis-à-vis de la société civile. Et donc, il faut apprendre à travers l'éducation à être des hommes justes, honnêtes, bons, respectueux des autres, des hommes libres, des hommes qui sachent défendre la paix, la vérité, qui apprennent aussi à collaborer entre eux, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'une des méthodes que André Léo a sollicité, c'est un travail coopératif, de groupe, au lieu d'un travail silencieux, autonome, qui était la méthode de l'époque. Donc, le but de l'instruction, c'est la formation d'un citoyen capable de transformer la société. Et c'est là la vraie révolution d'André Léo, que j'ai voulu conclure, par cette phrase, l'instruction du peuple, tout est là désormais, tout est vain sans cela. Donc sans l'instruction, on ne peut pas penser dans un renouveau de la société, seulement à travers l'instruction, on peut penser à réaliser une société meilleure et plus juste. Voilà, j'ai fini avec une petite bibliographie que j'ai utilisée pour la réalisation de cette présentation. Voilà, c'est tout.
Parfait, vraiment à la seconde près. Et je crois qu'on peut féliciter une nouvelle fois Fernanda, qui a bien su décortiquer avec netteté toutes les idées d'éducation de André Léo, à la fois les objectifs, les contenus, les moyens. Et personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle est toujours d'actualité, ces discussions pourraient être encore tenues aujourd'hui. Et on pense dans ces méthodes à freiner, on pense aussi à Françoise Dolto et l'analyse des enfants. Hein, et on aurait bien vu André Léo, ministre de l'Éducation nationale, seulement à défaut de donner des instructions, d'imposer des instructions, eh bien, elle a publié des livres et donné des indications qui sont souvent aujourd'hui mises en pratique. Merci beaucoup, Fernanda. Et l'heure est donc venue, avant une petite pause, eh bien, de jouer au jeu des questions et des réponses. Voilà, sur les deux sujets.
Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une chose qui est complètement absente dans son programme éducatif, c'est l'enseignement professionnel. Parce qu'à l'époque, tous les socialistes qui font des programmes éducatifs accordent énormément d'importance à l'enseignement professionnel, parce que d'une part, ils veulent qu'il n'y ait pas qu'on n'accorde pas d'hierarchie aux métiers intellectuels sur les métiers manuels, et parce qu'ils veulent former des hommes complets. D'ailleurs, ça, c'est assez proudhonien. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, il n'y a aucune référence à l'enseignement professionnel dans son projet. Et j'ai une autre question, je peux la dire à la suite. La question de la mixité et de la coéducation des sexes. Est-ce que c'est... parce que j'ai pas... l'école qu'elle projette, c'est seulement pour les filles?
Non, non. Je ne sais plus dans quel livre, elle propose aussi une école mixte. Une école mixte où les garçons et les filles ne seraient séparés que pour des travaux qu'il faut naturellement séparer. Mais bon, Le projet qu'elle a réalisé de l'école de filles, c'était une école pour les filles des associés de l'association même. Elle était destinée qu'aux filles, je suppose. Et c'est là l'exemple le plus complet qu'elle donne d'organisation d'une école, parce que c'était vraiment une organisation précise qu'elle propose. Elle est passée de la parole qu'on peut lire dans ses livres à une réalisation concrète d'une école qui n'est malheureusement pas partie, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu le siège de Paris, il y a la commune, il y a eu des événements politiques qui ont empêché la réalisation de l'école, mais elle était tout de même prête à partir. La directrice aussi avait été, comme dans l'hôtel aussi, nous l'explique dans son livre, la directrice était... Les subventions aussi étaient... Fait. Alors, en ce cas-là, c'était une école de filles. Dans les romans, elle donne des idées générales sur l'éducation. D'après mes connaissances et mes lectures, il faut dire aussi que souvent, l'école était... les enseignements qu'elle donnait n'étaient pas dans une école publique. Elle parlait beaucoup d'écoles privées libres qui étaient favorisées, que la loi permettait, et donc d'écoles libres, souvent c'était un enseignement à domicile même, pas dans un établissement public. Et j'ai lu cette idée dans l'article de Cecilia Beach qui va parler plus tard, mais qui a écrit un article sur l'éducation. Elle explique bien que, tu peux le dire éventuellement dans ton intervention, que j'ai perdu le fil, la mixité, après j'avais déclenché la profession, oui. D'après ce que je sais, dans ces livres, il n'y a pas de citation précise, ponctuelle, sur un travail précis. Mais c'est vrai que tout le long de son œuvre, elle parle de travaux pratiques, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans la pratique. Ceci, c'est clair. Elle le dit partout, n'importe quoi, dans les traités, dans les romans, il y a un apprentissage direct.
Elle crée des écoles professionnelles.
Ah, dans l'INALI, voilà.
Je ne sais plus. Mais
elle crée des écoles professionnelles. Excusez-moi, parce que vous pouvez répéter.
Oui, pardon. Donc, juste que dans certains de ces personnages, comme Aline ou Ali, Aline, créent des écoles professionnelles pour les travailleuses. Donc... mais je ne sais pas si c'est intégré, je ne me souviens pas si c'est intégré dans ces projets d'école même.
Il y avait une dame avant vous, il faut que je traverse la salle.
Oui, je me permets rappeler que ce matin, Claude Latin rappelait qu'elle avait réorganisé l'école de filles de dessin de la rue du Puy-Traine et cette école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles enseignait le dessin, le modelage, la sculpture sur bois et sur ivoire, et le but, c'était de garantir l'indépendance des jeunes filles. Donc, elle l'a mise en pratique.
Et peut-être juste pour rappeler aussi que quand elle arrive à Paris, au début des années 60, André Léo, en fait, arrive tout de suite dans le réseau de la Société des écoles professionnelles de filles d'Élisa Lemonnier, et je crois qu'on n'a pas vraiment de source, à ma connaissance précise, là-dessus, mais apparemment, elle aurait enseigné un petit peu dans cette... Société des écoles professionnelles, et à un moment donné aussi, lorsqu'elle projette donc cette école démocratique pour filles, certains projets, alors, est-ce que c'est dans la lignée de son projet, elle, ou est-ce que c'est des extrapolations de ses proches, mais cette école est souvent présentée comme une école préparatoire aux écoles professionnelles de filles. Donc il y a toujours un lien quand même plus ou moins vague.
Je voulais rappeler ce lien justement avec les écoles professionnelles. Et on peut dire qu'André Léo était partie prenante, évidemment, de la formation professionnelle des filles, fondamentalement dans tous ses écrits, mais aussi sa vision globale de l'école qu'elle décrit dans ses différents romans colle parfaitement avec ce qui s'est passé sous la Commune, parce que pendant le siège, mais c'est une chose, il n'y a pas évidemment, mais sous la Commune, il faut rappeler que le 3 avril 1871, un décret est paru au journal officiel de la Commune de Paris annonçant la séparation de l'Église et de l'État et la mise en place concrètement dans la vie de tous les jours de la laïcité, c'est-à-dire que les femmes et notamment des gens comme André Léo étaient pour beaucoup dans le remplacement dans les écoles du personnel religieux par le personnel laïque. Et ça, ça a été quelque chose de très difficile, même physiquement, puisque les religieux ne voulaient pas sortir des écoles et qu'ils agressaient physiquement les gens chargés par la Commune d'assumer les postes laïques à l'école et dans les hôpitaux également. Mais sur l'enseignement, ça a été quelque chose de difficile. Et on a connu aussi cette période où on n'attendait pas la publication d'un décret pendant des années pour mettre en place les revendications qui étaient définies souvent dans les clubs ou par des gens comme André Léo dans différents écrits. On a mis en place immédiatement la laïcité. Il y a un texte d'une femme qui écrit dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le courrier des lecteurs du journal Le Prolétaire de l'époque, le 2 avril, c'est-à-dire la veille de la parution du décret. Elle écrit qu'elle veut transformer son école en faire une école laïque et qu'elle souhaite avoir parmi les enfants. Bon, ça marche. J'ai trop bousculé mon micro. Elle voulait dans l'enseignement, et elle le dit, et c'est dans les textes aussi de la Commune, des gens qui seraient considérés comme professeurs, qui étaient des ouvriers, pour apprendre aussi la valeur du travail manuel.
Si je peux rajouter, à ce moment-là, justement, sous la Commune, la laïcité a été certes déclarée, mais pas la mixité. André Léo continue à travailler sur des projets d'école de filles. Ils n'ont pas franchi ce pas-là.
Casser la figure à Jory, les filles. Oui, alors, merci. Donc, bon, j'aurais une trentaine de questions donc, à poser, que j'aurais pu regrouper par paquet de 10, qui aurait fait donc 3 grandes questions, mais donc je vais aller à l'essentiel. Et je pourrais 2 questions pour chacune des intervenantes. Alors, première question, c'était dans la communication d'Alice Primi, parce qu'a été évoquée la question de l'oppression genrée, mais évidemment, c'est une expression contemporaine d'aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit développement pour préciser quelles sont les expressions, quels sont les mots qui sont utilisés pour définir cette expression genrée? Et puis, deuxième élément, c'était par rapport à la suite, si je peux dire, ou au bilan peut-être qu'aurait pu porter André Léo, mais là, j'avoue totalement mon ignorance, après la Commune de Paris, est-ce qu'elle est revenue sur cette expérience-là? Si on fait un parallèle un petit peu osé, Benoît Malon avait écrit un livre, Les trois défaites du prolétariat, livre célèbre. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il y ait peut-être les trois défaites du féminisme, mais son expérience de ces années-là, est-ce qu'elle est revenue dessus après? Et à ce moment-là, si la réponse était positive, quel regard elle portait elle-même sur ces années-là et sur cette expérience? Et puis pour la deuxième communication, donc là, deux questions aussi. La première, alors c'est juste une demande de complément, mais j'ai été assez surpris, si je puis dire, sur le fait que finalement, elle fait preuve d'un anticléricalisme qui est d'époque, mais là, c'est un anticlérisme quand même relativement modéré. Voilà, ça, c'est peut-être un petit peu surprenant à travers les mots pour son combat pour l'école. Et puis, deuxième élément, c'est à travers la communication, là j'ai été surpris, je ne m'en étais pas rendu compte, de l'extrême modernité quand même de son programme, puisque quand on lit des articles de pédagogie d'aujourd'hui, enfin je retiens juste deux éléments, ne pas refléter sur l'enfant ses angoisses, ou encore apprendre à collaborer, bon, c'est des perspectives qui sont tout à fait donc récentes, qu'on voit apparaître dans la presse, si je peux dire, à grand tirage. Alors je ne vais pas citer de titre pour ne pas faire de publicité, hein, voilà. Mais donc là je suis assez frappé par la modernité de ses propositions.
Je vais jouer mon rôle en disant que les réponses devront être assez rapides parce que je veille à votre santé et il faudra au moins un petit quart d'heure de pause, ne serait-ce que pour aller s'aérer. Oui, 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 oui. Oui. Non, non, mais bien sûr, on a encore le temps. Hein.
quand même, je vais essayer d'être rapide. Donc, pour répondre, revenir sur la question de l'oppression genrée, en fait, je serai d'autant plus rapide que je renverrai à ce qui a été dit ce matin, notamment en référence à Aline Ali. Donc, tout son discours à ce moment-là, dans ses articles, dans le manifeste, là, j'ai plus pas le temps de retrouver une expression précise, mais c'est vraiment de montrer que la femme, entre guillemets, c'est une construction, c'est une création des hommes, et que donc, il n'y a aucune légitimation à son infériorité sociale, si ce n'est donc la volonté de domination des hommes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut employer l'expression, évidemment, oui, complètement anachronique, de genre, mais qui permet de comprendre que, vraiment de manière assez singulière, assez unique à cette époque, elle ne tient jamais un discours essentialiste, elle ne dit jamais la nature de la femme ceci ou la féminité cela. Ce sont des mots qu'elle exclut totalement de sa rhétorique, et elle parle toujours, son but est vraiment toujours de faire reconnaître les femmes en tant qu'individus qui sont, comme on faisait le parallèle ce matin avec le prolétariat, qui sont passées dans une condition d'oppression. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut employer la terminologie de genre. Et voilà. Et pour l'expérience... Oui, est-ce qu'elle revient sur cette expérience de ces années-là? Alors, à ma connaissance, bien sûr, dans les romans, comme on en a parlé ce matin... Mais précisément, il y a dans le fond des caves à Amsterdam des notes manuscrites qui sont inédites encore et que j'ai commencé à lire, mais je ne les ai pas encore toutes déchiffrées, où elle raconte justement la fin de ces années du Second Empire. La fin du Second Empire, donc c'est très intéressant. Mais pour ce que j'en ai lu jusqu'à présent... elle ne dit rien de plus que, enfin dans son analyse politique en tout cas, que ce qui est contenu dans La femme et les mœurs, par exemple, ou dans ses articles de la période. Donc une même analyse politique des résistances du mouvement démocratique, à la fois des élans, des espoirs incroyables de ces années-là, mais des résistances répétées qu'elle-même a rencontrées. Voilà.
Non, en ce qui concerne l'anticléricalisme modéré, je crois... que vous n'avez pas raison, non. Peut-être j'ai choisi dans ma présentation des citations qui paraissent peut-être modérées, mais non. Elle a été absolument contre l'Église de toute manière. Je relisais pas il y a longtemps Coupons le câble, par exemple, cet essai qu'elle a écrit en 1899. Elle y retrace un portrait de la religion qui est en complicité avec les pouvoirs monarchiques du temps, de tous les temps, pour éviter que le peuple prenne toujours conscience de son pouvoir. Donc il y a une connivence d'idéologie entre l'Église et les pouvoirs politiques. Elle accorde, par exemple, à Jésus-Christ, oui, elle est assez... elle ne le critique pas. À propos de l'Évangile, elle est assez souple, elle est souple, mais en ce qui concerne l'Église et tout ce qui s'est construit après, elle est très, très forte, elle est très critique. Et au contraire, ce qui concerne la modernité de sa didactique, il faut avouer que, et c'est vrai, elle est très moderne. Cela, elle n'est pas la seule à avoir ses idées à son époque. Je voulais seulement dire, par exemple, qu'il y a... parmi les républicains, par exemple, on sait la loi Ferry, 1870, elle confirme, elle sanctionne la loi obligatoire, gratuite et laïque. Mais au-delà de ça, il y a encore, de la part d'André Léo, de quoi contester l'école publique. Elle ne se contente pas de cela, parce que ce sont là maintenant les méthodes qui doivent changer, les méthodes d'éducation. parce que même si l'école est gratuite, obligatoire, laïque, et qu'on conserve des méthodes vieilles, oppressives, qui veulent absolument, qui sont fondées sur, comme je disais tout à l'heure, la mortification, la mémorisation et la non-valorisation de l'élève au centre, si on n'arrive pas à ça, on ne peut pas motiver l'enfant et former des citoyens. Donc c'est ça, en cela, elle est beaucoup plus moderne, si l'on veut, des ministres qui ont fait la loi, les lois comme depuis Jules Ferry, qui se sont contentés de donner des directives sur l'obligation, gratuité, laïcité. Mais un tout petit peu sur les programmes qui sont devenus plus concrets, il faut dire aussi. Mais sur les méthodes, non. Il faut, là, c'est vraiment... Elle a pris un parti qui est très original, très fort, et à travers son œuvre, elle a diffusé cette pensée d'une éducation différente à travers des méthodes tout à fait neuves. Voilà.
Merci. Il reste une question, peut-être. Il faudrait qu'on s'arrête à 20. Oui. Tout à l'heure, à la fin, on pourra reprendre la discussion.
Juste une remarque.
Pardon, juste une petite précision, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas dans la salle. Quand on a parlé plusieurs fois de Coupons le câble, et c'est un titre un peu bizarre, et en fait, c'est Coupons le câble vraiment avec la religion. C'est, voilà, parce que c'est un peu curieux. Et j'en profite pour glisser que la réédition va paraître incessamment aux éditions Dietmar.
Monsieur Ayot.
Trois remarques très brèves sur le vocabulaire et les dates. La première remarque, c'est la suite de ce qu'a dit Claudine Rey dans Le Gros Larousse, Le Gros Robert, en 9 volumes, le laïcité daterait de 1871. Sans commentaire. Le mot laïque vient du Moyen-Âge, mais le mot laïcité, dans le sens d'aujourd'hui, daterait de la Commune. Ça vaut son pesant de cacahuète. Deuxièmement, quand vous dites la liberté, faire ce qu'on veut, mais pas tort aux autres, c'est dans l'almanach du père Gérard en 1792. Ça rejoint ce qui a été dit ce matin. Et troisièmement, alors là c'est par rapport au vocabulaire d'aujourd'hui, quand on parle de libre école libre. Sous Napoléon III, il faut prêter serment. Ça marche plus le truc là. Il faut prêter serment pour avoir le droit d'enseigner. Donc quand on ne veut pas prêter serment, on fait une école libre, privée, ce qu'a fait Louise Michel. Mais par la suite, l'école devient laïque. C'est elle qui est libre. Et c'est un abus de langage de traiter l'école privée d'école libre. C'est tout.
Bon, vous avez été bref, par conséquent, on peut accepter une toute dernière question du monsieur, si ça demande une réponse rapide.
J'étais pas là ce matin, alors la référence que je vais donner a peut-être déjà été donnée. En entendant ce qui concernait, au moment où on parlait par exemple d'école buissonnière, donc tout ce qui tourne autour, disons, de la pédagogie nouvelle, j'ai pensé presque automatiquement à Jean-Jacques Rousseau, je veux dire, à ce qu'il y a dans l'Émile et tout ça. Alors, c'est pas du tout pour dire André Léo a rien inventé, mais l'histoire de ces choses-là, c'est des rebonds, c'est des relais qui sont prêts, etc. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette continuité, je veux dire, ce relais qui a été pris? Et puis, question subsidiaire de vocabulaire, est-ce qu'on sait de quand date le mot pédagogie lui-même?
Le mot pédagogie, ça vient d'où?
Pédagogie.
Quand? On va faire une journée d'études sur l'histoire de l'éducation, je le sens. Très beau sujet.
Il faudra regarder sur le Robert. Le Robert donne toujours la date de première utilisation.
Oui.
Mais pour la première question, l'enchaînement des idées éducatives de Rousseau à André Léo.
Oui. Non, je sais qu'il y a des mouvements pédagogiques auxquels elle s'est inspirée. Et c'est dans l'article de Cécilia Beach, elle en parle très bien. Donc, si éventuellement tu veux répondre, Cécilia. Moi, j'ai évité d'en parler dans ma présentation. J'ai voulu la limiter, d'autant plus que le terrain avait déjà été approfondi par Cecilia Bich, donc je ne voulais pas reprendre le même thème. Et, mais c'est vrai que ses idées ne sont pas complètement originales. Elle les a reprises de mouvements pédagogiques de l'époque. Donc, si Cecilia veut reprendre ce... Moi, j'ai fait un choix de ne pas en parler. Voilà.
Moi, je serais tenté de remettre à tout à l'heure.
Je pense pas que j'ai parlé beaucoup de Rousseau dans cet article. J'ai parlé plutôt des mouvements, des mouvements contemporains.
Oui, pour terminer, je dirais un mot, c'est Condorcet. Ce matin, on a évoqué donc le maître Condorcet.
Juste une petite chose, si je peux me permettre. Je ne connais pas pour André Léo, mais les socialistes, ils se réfèrent effectivement à Rousseau. Mais ils lui reprochent une chose importante, c'est que tout ce qu'il a écrit, c'est pour de l'éducation privée et pas pour de l'éducation publique, populaire. Alors que les socialistes, dont André Léo, j'imagine, ce qui les soucie, c'est l'éducation du peuple. Et c'est là que se fait la grosse différence. Mais c'est sûr qu'ils se réfèrent à Rousseau, mais ils se réfèrent aussi beaucoup tous à Pestalozzi et à Froebel, surtout, dont tu as parlé tout à l'heure.
Non, c'est ce que j'allais dire, oui, l'éducation des filles et des garçons.
Merci beaucoup de toutes ces interventions fort intéressantes. Donc, on s'accorde une toute petite pause. Il faudrait qu'on soit là à 15h35. C'est prévu par le programme de M. Frédéric Chauveau.